Bonjour chers auditeurs, laissez-moi vous emmener avec moi pour un voyage temporel au temps des chevaliers. Ce retour vers le passé a eu lieu le mercredi 13 août après-midi grâce au centre social Arras Sud. Vite, ne restons pas là et commençons l'exploration des entrailles de la ville. Notre guide Victor nous y attend.
Bien alors, nous sommes arrivés dans les boves, donc on est à 12 mètres de profondeur. Donc les boves, ce sont d'anciennes carrières d'extraction qui ont été utilisées à partir du 9e siècle. Donc pour ce faire, les carriers creusaient des puits d'extraction, comme celui-ci derrière moi, et descendaient à l'aide d'un système de cordes et de poulies. Alors comment était extraite la craie? Si vous regardez à ma gauche, on a un très bon exemple. Vous voyez bien qu'elle est naturellement séparée en blocs. Donc les carriers utilisaient de longues tiges de fer, qu'on appelait des baramines, pour venir effectuer une pression entre chaque bloc afin de bien les séparer les uns des autres. Puis il est remonté à la surface par ces mêmes puits.
Du 9e au 12e siècle, ces carrières bourdonnaient d'activité pour extraire la précieuse craie nécessaire aux constructions de bâtiments religieux. Mais imaginez la situation. Juste au-dessus de nos têtes, le centre-ville connaissait un développement fulgurant. La population augmentait, attirée notamment par les nombreux marchés qui animaient les places plusieurs fois par semaine. Face à cette expansion urbaine, impossible de continuer à creuser sous les pieds des habitants. Pour des raisons évidentes de sécurité, l'extraction a dû cesser. Les carriers ont alors ouvert de nouvelles carrières plus au sud, derrière l'actuelle gare SNCF. Le saviez-vous? Au XIIe siècle, les maisons se vendaient de la cave jusqu'au grenier. L'accès aux caves se faisait soit par les maisons, soit par des trappes dans la ruelle. Les caves d'aujourd'hui, c'est 4 mètres de profondeur maximum. Elles sont toujours utilisées par des bars, des restaurants ou des habitants. Mais avant, on creusait jusqu'à 12 mètres sous terre. En effet, les souterrains sont creusés sur 3 niveaux, 12, 8 et 4 mètres. Et dans les carrières du sud, comme celle de Wellington, c'était jusqu'à 20 mètres.
Et 3 siècles plus tard, la ville était sous l'autorité des Pays-Bas espagnols. Donc c'était le roi Philippe II d'Espagne. Et en 1583, il a promulgué l'édit d'embellissement. Donc c'était une loi qui imposait de reconstruire les habitations du centre-ville en utilisant de la pierre au lieu du bois. Donc d'abord pour éviter les incendies, mais aussi dans un but esthétique. Donc j'imagine que vous avez sans doute remarqué le style particulier des maisons sur les places, hein, qu'on appelle le style baroque flamand et qui vient donc de cette loi. Donc on dit baroque avec toutes les courbes sur la devanture, et flamand puisque les maisons sont à la fois très étroites et profondes, mais aussi avec le pignon sur rue.
D'ailleurs, savez-vous d'où vient l'expression « avoir pignon sur rue » ? Eh bien du Moyen-Âge, figurez-vous. Alors, avoir pignon sur rue, ça veut dire quoi exactement ? C'est être reconnu, avoir une bonne réputation, surtout dans le commerce. L'idée, c'est d'être visible et respectable. On peut l'utiliser au sens propre, avoir un magasin sur une grande rue, ou au figuré, dominer son secteur d'activité. L'origine remonte au Moyen-Âge. Le pignon, c'est cette partie triangulaire en haut des murs qui soutient le toit. À l'époque, toutes les maisons avaient bien leur pignon sur rue, mais attention aux détails. Les maisons modestes donnaient sur des petites ruelles, tandis que celles des riches s'ouvraient sur les grandes artères. Et voici ce qui fait toute la différence. Les propriétaires fortunés décoraient leurs pignons. Sculptures, inscriptions, ornements. Ces pignons ornés, c'était comme des cartes de visite architecturales. Ça montrait tout de suite le niveau social du propriétaire. Avec le temps, l'expression a évolué. D'abord réservée aux gens fortunés, elle s'est étendue aux commerçants prospères qui s'installaient sur les rues principales pour attirer les clients. Aujourd'hui, elle a perdu sa connotation de richesse pure. Elle désigne plutôt un commerçant bien établi qui a une solide réputation et inspire confiance par sa visibilité. Découvrons maintenant comment d'anciens puits d'extraction ont été détournés pour en faire des puits à vaisselle.
Alors au XIIe siècle, quand les carriers ont quitté les lieux, les Arageois sont descendus jusqu'ici et se sont appropriés l'endroit pour l'utiliser comme cave par exemple. Alors cet accès spécifique au-dessus de nous appartenait au Lion de Faïence, un magasin de vaisselle qui jetait donc ici sa vaisselle cassée ou invendue. Ce qui fait qu'en 1982, Quand des Arajois ont exploré ce niveau à nouveau, qui avait donc été fermé entre-temps, hein, ils ont trouvé ici plusieurs mètres cubes de vaisselle cassée au sol, exactement où on se trouve.
Oh, ouais.
D'accord.
Okay. Non, tu vois, c'est pas pour faire la vaisselle.
C'est pour ça qu'il y avait...
Eh bien non, les puits à vaisselle ne servaient pas à la faire, mais plutôt à la casser. D'ailleurs, peut-être que cela vous fait penser au bleu d'Arras. Pour celles et ceux qui auraient un doute, laissez-moi vous présenter ce patrimoine immatériel arajois. Il s'agit d'une porcelaine au bleu de cobalt, créée en 1770 par les sœurs Delemer. Elles en produisent elles-mêmes jusqu'à leur décès en 1790. La technique a ensuite été retrouvée dans les années 1960 par Henri Caudron. Cet héritage vit toujours aujourd'hui dans les ateliers de Christelle Perrier, que vous pouvez retrouver sur la place des Héros.
En ancien français, Arras se prononçait Ara, et donc progressivement, ça a fait du rat des symboles de la ville. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on connaît le rat d'Arras en chocolat.
La légende qui dit qu'Arras était envahi par les Roms, ça n'a rien à voir.
Non,
c'est pas vrai?
Non,
c'est une légende.
Il y a toujours des rats.
Oui, c'est...
Notre guide Victor va maintenant nous expliquer comment les marchands utilisaient les boves.
Et les marchands, à chaque fois qu'ils rentraient ou sortaient de la ville avec leurs produits, devaient payer une taxe qu'on appelait l'octroi. Donc, ils ont décidé de descendre dans les caves des habitants avec leur accord et de laisser leurs produits ici entre chaque marché dans le but d'éviter de payer cette taxe. Donc, ces murets qu'on voit très bien ici servaient en fait de séparation entre les produits des marchands.
On retrouve ces espaces de stockage dans différentes sections de la galerie. Au Moyen Âge, étaient stockées principalement des barriques de vin, du fromage et de la viande. C'est pourquoi nous pouvons voir les traces des tonneaux qui se sont incrustés dans les parois.
Et Arras était une ville importante dans le commerce du vin puisqu'il était étapé ici. Donc le vin de la région, avant d'être envoyé sur les marchés, passait d'abord par ici pour qu'on le taxe. Donc cette cave a été aménagée par les habitants. Donc on retrouve par exemple des arches brisées, hein, comme celle-ci, ou au centre de la pièce, cette grande arche qu'on appelle un arc en plein cintre. Et de plus, plusieurs niches, comme celle-ci à ma droite, qui servaient à y poser des bougies. Mais ce qu'il y a de très intéressant dans cette pièce se situe au plafond. Ce sont des isolateurs électriques en verre qui datent de très peu de temps après la Première Guerre mondiale, qui ont été installés par les mineurs de Lens à la demande des habitants. Donc c'est le tout premier réseau électrique des boves. Ces murs en briques rouges comme ceci que vous avez peut-être remarqué tout au long de la visite. Donc c'est pareil, elles ont été construites par les mineurs de Lens à la demande des habitants qui craignaient qu'un deuxième conflit survienne.
Faisons un bond dans le temps et apprenons-en plus sur la bataille d'Arras qui a eu lieu du 9 avril au 16 mai 1917.
Donc en 1916, Arras était détruite à 80% et la ville se trouvait le long de la ligne de front qui séparait le territoire occupé par les Allemands du reste de la France. Et les soldats français qui se trouvaient à Arras auparavant étaient partis à divers endroits plus au sud, notamment autour de Verdun. Et la ville a donc reçu l'aide des soldats de l'Empire britannique, qui sont arrivés à partir de février 1916, comme on peut le voir sur cette photo à ma droite, qui a été prise rue Baudimont. Donc c'est la raison pour laquelle, pendant cette période, les journaux étaient édités en français et en anglais. Donc on a une reproduction à ma gauche, sur laquelle vous pouvez voir l'hôtel de ville, le Beffroi, la place des Héros. Donc le Beffroi a été détruit en avril 1916 sous les obus allemands. Ensuite, en novembre de cette même année, a eu lieu la conférence de Chantilly, durant laquelle on a décidé d'organiser la bataille du chemin des Dames dans l'Aisne et une bataille de diversion à Arras. Donc pour préparer la bataille d'Arras, on a fait appel aux tunneliers néo-zélandais qui sont venus joindre entre elles toutes les carrières présentes au sud de la ville, donc celles qui avaient été ouvertes dès le XIIe siècle. Donc les tunneliers ont aménagé chaque carrière pour que les soldats puissent y vivre secrètement en amont de la bataille et utiliser ces endroits comme cantonnement. et surtout pour avoir un effet de surprise le jour de la bataille. Et d'ailleurs, ces carrières ont été renommées par les tunneliers qui se sont basés sur la carte de Nouvelle-Zélande. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous parle des carrières Wellington. Tout à l'heure, on parlait d'Auckland, Nelson. Donc, la bataille a débuté le 9 avril 1917 avec les soldats canadiens à Vimy, les soldats britanniques à Arras et les soldats australiens à Bapaume. Donc, vous pouvez voir la ligne de front de la bataille le long de laquelle les soldats, avec l'aide des tunneliers, ont fait exploser les sorties des carrières pour avoir cet effet de surprise. La bataille se déroulant donc un peu en périphérie des villes, vers l'est dans la campagne. Donc n'étant considérée que comme une diversion, la bataille était supposée durer une semaine, mais elle a finalement duré 39 jours. Et ils ont compté à la fin 150 000 blessés, tués ou disparus chez les soldats de l'Empire britannique et 120 000 chez les soldats allemands.
La raison pour laquelle autant de cimetières du Commonwealth, donc de l'Empire britannique, sont présents autour d'Arras et plus largement sur la ligne de front jusqu'à Verdun, est le droit du sol. Il s'agit d'une tradition aristocratique du XVIe siècle qui fait que chaque soldat doit être enterré exactement là où il est tombé. Ne perdons pas de temps et remontons à la surface. Suzanne Accard, médiatrice du patrimoine et d'archéologie pour la ville d'Arras, nous attend pour présenter Mao d'Artois, comtesse d'Artois et de Bourgogne.
Une femme qui va mener vraiment son comté avec vraiment une grande fermeté, celle qu'on attendrait d'un homme mais qui surprend une femme. Elle va être jugée, elle va être mise en procès par son neveu Robert II d'Artois qui veut récupérer le comté à plusieurs reprises. Elle va être accusée d'empoisonnement. Ses filles vont être jugées pour des affaires de mœurs, de tromperie, de trompe des rois hein, quand même. Donc, et voilà, tout au long de sa vie, en fait, sa vie ne sera qu'un combat pour gouverner le comté et garder sa place, défendre sa place aussi au royaume. Donc vraiment une femme de pouvoir.
Mais elle n'avait pas une bonne réputation.
Elle n'avait pas une bonne réputation, mais en fait, quand on regarde, les comtes ont accepté qu'ils agissent de la sorte, on a accepté qu'ils soient sévères, on a accepté, alors que quand ça venait d'une femme, on attendait plutôt d'elle une certaine clémence. Et en fait, elle n'a fait que gouverner le comté d'Artois comme son père lui a appris à le faire. Et en fait, c'est pour ça qu'on est assez... notre vision actuelle est quand même imprégnée par cette convention entre guillemets, et on est aussi beaucoup influencé par les écrits de Maurice Druon et les interprétations qu'on a eues après d'Hélène Duc et de Jeanne Moreau, puisqu'elles ont interprété toutes les deux Mao d'Artois dans Les Rois Maudits. Donc on est aussi influencé par ces interprétations.
Les Rois Maudits de Maurice Druon ont même inspiré George Raymond Richard Martin, l'auteur de Game of Thrones. Le cœur de ville médiévale est l'abbaye Saint-Va. Fondée au 7e siècle par des moines bénédictins, l'abbaye est très prospère et possède un système de fortifications. Elle a été construite en mémoire de Saint-Va. Voici sa légende. Quand il est arrivé pour évangéliser les Arageois, il a fait le choix de ne pas tuer l'ours qui attaquait les habitants, mais de l'apprivoiser. En fonction des représentations, Saint-Va affronte un ours ou bien des serpents, des araignées ou encore des anguilles. Dans tous les cas, il s'agit d'une métaphore du paganisme. L'abbaye conserve 700 manuscrits de l'époque dans ses collections. Retournons maintenant sur les places. Saviez-vous qu'elles existaient déjà au XIe siècle? Depuis le Moyen-Âge, elles sont le centre économique de la ville. Des pièces de théâtre se tenaient même sur la place des Héros. L'Arras médiévale a également connu deux grands poètes, Jean Baudel et Adam de la Halle. Sur la place des Héros, levez les yeux. On peut retrouver une licorne sculptée sur la façade d'une maison, des gerbes de blé symbolisant la prospérité, ou encore une salamandre pour la chance. Tâchons d'en apprendre davantage dans cette interview. Bonjour, pouvez-vous vous présenter pour les auditeurs qui nous écoutent ?
Alors bonjour, je m'appelle Suzanne Accard, je suis médiatrice du patrimoine et de l'archéologie pour la ville d'Arras.
Que dire du Arras médiéval ?
Alors, Arras médiéval, en fait, se construit autour de l'abbaye Saint-Va, fondée au 7e siècle. Donc, c'est un centre de savoir, le Moyen-Âge, Arras au Moyen-Âge, de savoir, de commerce, de talent. Je pense notamment à la haute lice. Je pense aussi au talent d'Adam de la Halle, par exemple, ou Jean Baudel, évidemment.
Pourquoi y a-t-il un lion sur le beffroi et non un rat ?
Alors, pourquoi voudriez mettre un rat de ce fait ? J'ai envie de vous poser cette question.
Eh bien, les rats d'Arras ?
Oui, mais en fait, on a aussi le lion de Flandre.
Merci de m'avoir éclairé. J'ai pu constater que de nombreux visiteurs vous ont suivi dans ce voyage dans le temps. Pensez-vous que les Arrageois s'intéressent plus ou moins à leur patrimoine qu'avant ?
Alors, quand, je ne sais pas.
Début de vos visites.
Au début des visites. Alors, j'ai envie surtout de dire qu'Arras, c'est 2000 ans d'histoire. Arras, c'est une ville au patrimoine riche, à l'attractivité évidente. Et en fait, ce patrimoine, il doit d'être partagé. Et en tant qu'Arrageoise, ben, juste lever les yeux suffit à emmener dans un voyage à travers l'histoire ou à travers l'imaginaire. Il suffit de regarder notamment les enseignes sur les deux places et je pense que ça éveille la curiosité, mais s'intéresser plus ou moins qu'avant, Je saurais pas le dire, mais en tout cas, la ville rayonne par son patrimoine. Alors, patrimoine vivant, mais patrimoine architectural. Bon, patrimoine vivant, on est quand même à quelques jours maintenant de la fête de l'Andouillette et du baptême de Mao d'Artois. Là, on est clairement sur du patrimoine immatériel, du patrimoine vivant.
Vous proposez plusieurs visites médiévales. Pouvez-vous nous en dire davantage ?
Alors, donc cet après-midi, on avait effectivement la chance de visiter les Boves avec l'Office de tourisme Arras Pays d'Artois. La semaine prochaine, on part en excursion, donc on prépare le pique-nique et on visite le château d'Olin et le donjon de Bourg. Donc voilà, pour comprendre un peu mieux comment on pouvait vivre au Moyen-Âge. Le 27, on va avoir une approche alors plus artistique. On va accompagner le barde, donc Roland Dumont-Gambier, qui va nous faire découvrir à travers les histoires qu'il a entendues, d'un barde à un autre trouvère, à un autre troubadour. Voilà, les histoires des géants de la région, des Hauts-de-France, grâce à voilà, la troupe Atom Théâtre qui travaille avec la ville d'Arras donc tout au long de l'été.
Il y a un programme haut en couleur.
Haut en couleur, oui, et d'abord en rouge et bleu, hein, aux couleurs de Mao d'Artois.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Ce voyage dans le temps était le premier d'une longue série d'animations proposées autour de la nouvelle géante d'Arras, Mao d'Artois. Le programme Mao fait sa cour se déroule du 13 août au 20 septembre. Il est entièrement consultable sur le site de la mairie d'Arras et de l'office de tourisme Arras Pays d'Artois. Votre prochain rendez-vous sera le mercredi 27 août à 14h30 pour une balade folklorique avec le barde Roland Dumont-Gambier au kiosque du Jardin du Gouverneur. L'entrée est gratuite sur inscription au 03 21 50 69 43 pour les mercredis d'août. Les mercredis 2 septembre sont quant à eux destinés aux 11-17 ans. Ils sont gratuits et également sur inscription au 03 21 15 90 13. Le baptême de la nouvelle géante aura lieu le dimanche 31 août lors de la fête de l'Andouillette à 16h30 sur la place de la Vacquerie.